Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Et bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'actualité régionale, le bien nommé Carnet de région, proposé comme d'habitude par les radios associatives du Languedoc-Roussillon. Ce mois-ci, c'est la radio FM+ qui est dans le rôle de rédac-chef. Au sommaire de ce numéro, la lutte contre le racisme passe entre autres par l'information et le débat. C'est ce qu'essaye de faire une toute jeune association en Camargue. Sinon, Michel Larocque va monter un film participatif dans la région. Et puis après, direction la petite commune héraultaise du Quélard, sur le plateau du Larzac. Depuis 1981, l'Estat Roquecastel accueille des personnes adultes handicapées autour d'un foyer d'hébergement et d'un service d'aide par le travail qui comprend plusieurs ateliers. Toujours dans le monde de l'entreprise, les salariés de Contralco Gignac devant les grilles de la préfecture à Montpellier pour réclamer du travail après le report de la loi sur les éthylotests. Tout de suite après, un sujet santé avec le week-end du cœur à Nîmes, Montpellier et Castries. C'est 3 jours pour sensibiliser aux dons d'organes en insistant notamment sur les bienfaits du sport. À l'initiative de ce projet, l'association Émile Cœur. Ensuite, une petite visite virtuelle proposée par Google aux commerçants de Narbonne et Béziers pour relancer un peu leurs activités. Et pour finir, toujours dans la santé, eh bien la santé des détenus, où en sommes-nous en France à l'heure où nos prisons sont sur le point d'imploser ? Le Gard, depuis les dernières élections présidentielles et législatives, est désormais étiqueté à juste titre comme un département avec un fort électorat FN. Face à ce constat, une toute jeune association s'est créée à Aigues-Mortes, 1 plus 1 plus 1. Elle organise ce samedi 9 février sa deuxième conférence débat avec pour thème « L'intégration est-elle vouée à l'échec ?» et comme intervenant principal, le sociologue René Domergue. Cathy Guyot est la présidente et fondatrice de cette jeune association créée au mois de septembre dernier. Elle a été candidate socialiste aux législatives sur la deuxième circonscription du Gard. Par téléphone, elle explique à Rémi Goujon de Radio Escapade pourquoi elle a voulu créer cette association.
Les objectifs de l'association, c'est de poser un diagnostic sur les raisons de ce repli en faisant donc des conférences régulières et en n'ayant pas peur d'affronter des sujets qui sont des sujets délicats. Alors la dernière fois, le 1er décembre à Vauvert, nous avons invité un certain nombre d'intervenants, dont Jean Montagnier, pour parler de la question des incivilités. Nous avions fait un questionnaire. Et donc les incivilités, cela peut être des impolitesses, mais cela peut être également aussi des violences. Et donc il fallait comprendre le mécanisme de certaines violences. Et donc c'est assez novateur en fait. Il faut absolument bien comprendre pour diagnostiquer et puis ensuite apporter des solutions ou des remèdes. La conférence qui a lieu à Sommières va nous permettre d'accueillir René Domergue et c'est une conférence sur le thème de l'intégration. Donc René Domergue est sociologue, il a travaillé de manière très, très sérieuse et très documentée sur les diverses vagues d'immigration, notamment dans notre région et dans le Gard puisqu'il est de Montpezat. Et donc c'est très intéressant de replacer la question de l'immigration dans un contexte historique et de voir comment se sont déroulées les vagues successives d'immigration pour arriver donc à l'immigration maghrébine, qui est un sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Mais replacer la problématique locale et la problématique actuelle dans un temps beaucoup plus long pour vérifier que les phénomènes quelquefois se répètent.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Une campagne originale pour un film qu'il est aussi. L'actrice Michel Larocque profite actuellement de sa tournée en province avec Pierre Palmade pour parler de son nouveau projet, un film participatif. Carcassonne est la deuxième étape pour elle après Besançon le 1er février.
Une première en France, le lancement d'un film participatif et il est porté par l'actrice Michel Larocque de passage à Carcassonne ce mercredi dans le cadre de sa tournée avec Pierre Palmade. Elle a rencontré son public en fin d'après-midi à Cap Cinéma. Elle nous parle de ce projet.
Là, c'est la première fois, si vous voulez, mais même je crois mondialement, c'est ça qui est rigolo,
qu'il y a une artiste ou un artiste un peu connu qui tout d'un coup fait une campagne là-dessus et a envie de le monter. Parce que le film est en train de s'écrire, enfin on est vraiment au début. C'est-à-dire que je pourrais le faire comme d'habitude, ce serait beaucoup plus cool d'aller voir un producteur qui irait voir une chaîne et puis voilà. Mais là en fait c'est l'aventure complète par rapport à un sujet de film qui est vraiment sur l'humain et je trouve que c'est génial parce que le hasard a fait que c'est une amie qui travaille pour Tousco Prod qui m'en a parlé et tout d'un coup j'ai dit mais j'ai un sujet pour vous et on va le faire ensemble et on va parler du financement participatif qui me plaît beaucoup parce que bon là pour le coup comme je suis quelqu'un qui a fait pas mal de films déjà. Je partage avec les gens cette possibilité tout d'un coup de mettre un pied dans le cinéma. Même en mettant 5 euros, 10 euros, ils peuvent dire « Oh bah tiens, j'ai mon film qui sort demain ».
Ils vous connaissent, il y a déjà ce lien avec vous ?
Bah oui, enfin de toute façon, il y a le lien par les films qui ont déjà existé et puis par le spectacle. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, tout d'un coup, bah, je leur offre la possibilité de faire partie d'un film, je vais puiser chez eux leur patrimoine créatif. Et on n'a pas toujours l'occasion dans certains métiers, on peut toujours créer. Mais bon, là, pour le coup, c'est quelque chose d'artistique, c'est quelque chose... ils vont décider de choses avec nous. Par exemple, là, pour l'instant, le titre, il est provisoire. On va faire toute une liste de titres. Ils vont voter pour le titre. Ils vont voter pour choisir l'affiche. Si de temps en temps, on se pose des questions... Ils voteront justement pour nous donner ce que eux semblent la bonne réponse. Y a des tas de choses en interactivité qui vont se faire et ça devient leur film parce qu'ils donnent une contribution financière mais qui peut être minime. C'est ça qui me plaît. C'est qu'il n'y a pas un minimum tant ou tant. Ils mettent ce qu'ils veulent.
Et plus d'informations sur ce projet de film participatif porté par Michel Larocque sur le site internet touscoprod.com.
Direction la petite commune héroltaise du Kélar sur le plateau du Larzac. Depuis 1981, le SAT, Roquecastel, accueille des personnes adultes handicapées autour d'un foyer d'hébergement et d'un service d'aide par le travail qui comprend plusieurs ateliers. Disséminés dans le village vétuste, un projet prévoit de les regrouper en un seul et même lieu, ce que nous explique le maire du Kélar, Jean Trinquier, au micro d'Alain Mendez pour Radio Lodev.
Nous aurons 10 agents, 10 ouvriers handicapés supplémentaires. On en a déjà 3 de plus. Et donc, monter l'effectif global du CAT autour de 90, ce qui est important pour l'activité du territoire. Et c'est intéressant qu'il puisse être intégré comme ça par des activités que mènent des entreprises et qu'il y ait cet échange pour qu'ils aillent dans le monde du travail. Parce que cette année, on en a 2. Qui ont retrouvé leur totale autonomie. Ils travaillaient pour le CAT, à l'intérieur du CAT, encadrés par des éducateurs, et puis ils ont pris leur envol, et ils travaillent dans des entreprises, et ça c'est quand même très intéressant au niveau humain. Les ateliers étaient vétustes, si vous voulez, et disséminés à l'intérieur du village dans plusieurs locaux, donc c'était difficile
au niveau de gestion. Ça permettra de tous les regrouper.
Oui, tout à fait. Il y a une blanchisserie, il y a les espaces verts, la peinture, des cagettes pour les fromagers, puis d'autres activités annexes. Donc les particuliers font beaucoup appel au CAT, les entreprises aussi. Le fait d'avoir, si vous voulez, des ouvriers supplémentaires offrira de nouvelles possibilités parce qu'il faut aussi montrer qu'on est capable de faire tourner ces ateliers. Le conseil général et l'agence régionale de santé, si vous voulez, participent à cette gestion et au financement également. Le CAT, si vous voulez, ça fait plus de 20 ans qu'il est au Kélar. Il avait démarré très doucement avec une certaine appréhension d'une partie de la population à un moment donné, au démarrage. Et puis petit à petit, plusieurs travailleurs handicapés logent dans le village, ont une vie totalement autonome et se sont intégrés et sont des membres à part entière, à tel point que certains vous font même des propositions d'investissement pour la commune dans d'autres thèmes, que ce soit un abribus ou d'autres choses. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on montre que des personnes qui ont ces difficultés intégrées dans un milieu plus large, eh bien, s'ouvrent et sont capables de faire des choses très intéressantes et en fait, également, ont beaucoup de tenues. Et on le doit, je crois, à la direction et à l'encadrement aussi.
Les travaux d'extension portés par la communauté de communes du Lodévois et l'Arzac devraient débuter le mois prochain pour être achevés d'ici la fin de l'année. Ils permettront à la structure, très bien intégrée dans le village aujourd'hui, de mener au mieux ses missions auprès des adultes handicapés. C'est un sujet d'Alain Mendez pour Radio Lodève.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
On veut du boulot. C'est ce qu'ont scandé les salariés de Contralco Gignac devant les grilles de la préfecture à Montpellier mardi après-midi. En une semaine, plus de 200 intérimaires ont été licenciés de l'entreprise spécialisée dans la fabrication d'éthylotests, suite à l'annonce du ministre de l'Intérieur de reporter l'éthylotest obligatoire dans les véhicules. Ils étaient environ 150 à vouloir faire pression sur l'actuel gouvernement, avec des panneaux où l'on pouvait lire « Valls absent, Montebourg, on t'attend ». Un reportage de Valiamage de Radio Pays d'Hérault devant la préfecture.
La revendication, c'est que notre entreprise a investi beaucoup parce qu'il y a 2 ans, on nous avait dit on va mettre le décret pour les éthylotests dans les voitures et que maintenant ils nous laissent tomber alors qu'on a beaucoup investi, beaucoup. Voilà. Donc, qui applique le décret qu'ils avaient déjà posé l'année dernière et qu'ils n'annulent pas pour que pérenniser tous les emplois intérim et CDD déjà.
Il y a à l'heure actuelle plus de 200 intérimaires qui sont partis de Contralco. Il ne reste que les CDD et les CDI, dont je fais partie, je suis un CDI, mais l'emploi en ce moment est très très précaire et on a peur pour l'avenir. Et on se demande comment ça se fait que le gouvernement actuel ne favorise pas l'emploi avec toutes les entreprises qui sont en train de fermer, quoi. Et nous sommes très très inquiets pour l'avenir.
Une délégation de salariés déçus après son entrevue avec le chef de cabinet du préfet. La préfecture a simplement demandé au commissaire au redressement productif ainsi qu'au directeur régional des entreprises d'intensifier leur contact avec l'entreprise Contralco et de lui proposer les mesures de soutien les plus adaptées.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Les commerçants sont tenus aujourd'hui en pleine crise d'avoir recours à des moyens de promotion utiles, novateurs et peu onéreux. Un service proposé par Google fait un bon démarrage à Narbonne depuis quelques jours. Un sujet proposé par Éric Boyer de RCF Pays d'Aude.
Depuis quelques années, les commerçants peuvent faire réaliser une visite virtuelle de leur magasin à destination d'Internet. Mais la prestation restait pour l'instant assez chère. L'entreprise Google propose depuis 1 an une formule à prix réduit qui connaît un assez grand succès sur Narbonne depuis début janvier. Écoutons Emmanuel Dubourg, photographe agréé sur Béziers et Narbonne.
On travaille à la fois sur Béziers et sur Narbonne, mais il faut avouer qu'on fait un vrai dynamisme à Narbonne et le projet plaît beaucoup. On touche principalement des petits commerces et des petites entreprises. Et voilà, c'est un projet qui semble intéressant puisque les commerçants eux-mêmes sont très intéressés.
Vous me disiez en préparant l'interview, quand j'arrive avec l'étiquette Google, ça parle aux gens.
Alors forcément, bien sûr, c'est un des points qui a fait que nous avons accepter de devenir photographe agréé puisque en effet on vient avec l'étiquette Google et tout le monde connaît Google, donc c'est Google étant le moteur de recherche utilisé à 90% en France en tout cas pour l'année 2012, c'est à peu près ça les chiffres, donc tout le monde connaît Google, donc c'est forcément plus facile, oui.
Vous avez conscience de participer finalement au début d'une autre forme de publicité pour les commerçants sur Internet?
La visite virtuelle interactive existe déjà depuis un certain temps, puisque nous, en l'occurrence, nous sommes des spécialistes de la visite virtuelle depuis 2009, mais ça existait déjà bien avant. Ce qu'il y a, c'est que l'avantage avec ce projet Google, c'est que ces nouvelles technologies d'information et de communication sont enfin, je dirais, accessibles aux petits commerçants, aux petites entreprises qui n'avaient pas forcément le budget pour s'offrir, je dirais, une visite virtuelle traditionnelle. Voilà.
Et Emmanuel Dubourg, ce photographe d'un nouveau genre, rejoignable au 06 45 70 50 16 pour tous les commerçants désireux d'avoir une vitrine virtuelle sur Internet à prix serré. 9 photographes sillonnent actuellement la région. Carcassonne sera couverte dès le mois de mai. Dans le monde entier, l'entreprise Google a réalisé pour l'instant 100 000 visites virtuelles et elle ne compte sûrement pas s'arrêter là.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
La santé des détenus, quel état des lieux? C'était le thème du 10e congrès des USCA, unité de consultation et de soins ambulatoires qui s'est tenue au Quorum de Montpellier cette semaine, jeudi et vendredi. L'occasion de faire le point sur la santé en milieu carcéral avec de nombreux colloques et échanges. Les précisions du docteur Fadi Merouet, interrogé par Cédric Combet de RCF Maguelone Hérault.
La France a été un peu pionnière dans la prise en charge sanitaire des détenus par la loi de 1994. Cette loi transfère la santé des détenus au ministère de la Santé et non plus au ministère de l'Intérieur ou de la Justice, comme c'est actuellement dans la plupart des pays. Les avantages de ce système, c'est que la santé est indépendante du système judiciaire et pénitentiaire, sous la responsabilité du ministère de la Santé, donc des hôpitaux de proximité. Donc si nous prenons l'exemple de Villeneuve-les-Maguelones, l'hôpital de proximité étant le CHU de Montpellier, qui est en charge la responsabilité de la santé des détenus. Il faut savoir que dans l'unité sanitaire, on a la prise en charge globale de la santé des détenus. Globale, ça veut dire aussi bien le soin somatique que le soin psychiatrique, que la prévention, l'éducation à la santé. Il ne s'agit pas simplement de donner un médicament ou un soin. Donc il faut prendre la personne dans la globalité. On a cette responsabilité. Et le deuxième avantage de la loi de 1994, c'est que la prise en charge, elle est gratuite pour les détenus. Elle est à 100%. Le corollaire de cette loi, c'était aussi de dire qu'il fallait qu'ils aient les mêmes soins qu'à l'extérieur. Actuellement, notre équipe est composée de à peu près 25 à 30 personnes. 25 à 30 personnes, parce qu'il y a certaines personnes sont à temps plein, d'autres à mi-temps. Donc on a une trentaine de personnes qui travaillent au niveau de l'unité sanitaire.
Est-ce qu'on peut faire le constat justement que cela est respecté, cette loi de 1994? Quel constat on peut faire d'ailleurs sur ce milieu carcéral, docteur?
Alors, la loi de 1994, elle est respectée. Elle est globalement respectée, puisque dans toutes les prisons, il existe une unité sanitaire dépendant d'un centre hospitalier de proximité. Donc cette loi existe. Maintenant, il ne faut pas oublier que la prison n'est pas un lieu de soins, c'est un lieu d'emprisonnement. Il faut que chaque chose soit à sa place. Nous, les soignants, on intervient dans un lieu qui est un milieu fermé. On intervient en tant que soignant, donc on soigne dans ce milieu. Mais ce n'est pas un lieu de soins. Donc ça, c'est vraiment un point important qu'il faut apporter. Après, c'est la pénitentiaire qui nous héberge. Donc les détenus, de toutes les façons, pour venir entre leurs cellules et le service médical, sont dépendants de la pénitentiaire. Donc globalement, on va dire que ça marche assez bien. Maintenant, on peut rentrer dans des anecdotes ou dans certains cas en nous disant que parfois, des personnes n'ont pas la possibilité de venir à l'unité sanitaire. Et là, on rentre dans des considérations peut-être plus ou moins personnelles, plus ou moins quotidienne, mais globalement, on peut dire que les personnes sont soignées aujourd'hui en prison.
Quels droits en matière de santé les prisonniers ont, docteur ?
Ils ont tous les droits. C'est pour ça que la loi nous dit des soins équivalents à l'extérieur. Donc l'équipe médicale met tout en œuvre pour leur donner les soins dont ils ont besoin. Aujourd'hui, il n'y a pas de restrictions. Alors les restrictions qui peuvent exister d'une prison à l'autre, c'est du personnel. Si on prend une pathologie quelconque, s'il y a un spécialiste de cette pathologie, il est évident que d'une prison à l'autre, le soin sera peut-être un peu plus donné dans cette prison que l'autre qui n'a pas cette spécialité. Et auquel cas, on fait appel au spécialiste de l'hôpital. Lorsqu'on a besoin d'examens complémentaires, lorsqu'on a besoin d'un avis de spécialiste, la personne est transférée à l'hôpital qui donne son avis et elle revient en détention. Donc aujourd'hui, on a, on va dire, trois niveaux de soins. Et le niveau 1, ce sont les consultations et les soins ambulatoires. C'est pour ça que ça s'appelait avant consultations et soins ambulatoires. Donc ce niveau 1 concerne les soins somatiques et les soins psychiatriques. Sur place, on a des médecins généralistes et des psychiatres qui peuvent consulter, qui peuvent donner des soins comme à l'extérieur, c'est-à-dire la personne qui rentre chez elle. Après, vous avez le niveau 2 qui est l'hospitalisation de jour, c'est-à-dire qu'une personne qui nécessite une hospitalisation journalière. À ce moment-là, quand elle est somatique, c'est le CHU de Montpellier pour nous, qui reçoit cette personne, ou le SMPR de Perpignan, qui est le secteur médico-psychologique régional, qui peut prendre des cas psychiatriques. Après, vous avez le niveau 3, qui est l'hospitalisation complète. Lorsqu'il nécessite une hospitalisation, nous avons deux unités hospitalières, une pour le somatique et une pour la psychiatrie. Ça veut dire qu'une personne qui a besoin d'être hospitalisée une semaine ou 10 jours ou 15 jours peut l'être dans des conditions de conditions hospitalières.
Est-ce qu'on doit aujourd'hui se préoccuper véritablement de la santé dans les prisons, docteur ?
Alors, de la santé dans les prisons, tout dépend de quel point de vue la question est posée. Aujourd'hui, les équipes sanitaires existent, les moyens médicamenteux et autres existent. Mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant. Il faut toujours un peu plus. Et le plus qu'on demande maintenant, aujourd'hui, c'est la préparation à la sortie. En attendant la prison de réparer, c'est-à-dire on a l'impression que quelqu'un qui va sortir de prison, il va sortir tout neuf de prison. Mais s'il sort à nouveau dans la rue et à nouveau sans droit, il risque de revenir plus souvent que les autres personnes.
Et voilà, c'est la fin de ces carnets de région. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.